Ce dimanche, Interception, c'est d'abord une bascule qui nous a tous fait réfléchir. Désormais en France, il y a plus de décès que de naissances, c'est l'INSEE qui le dit, notre pays vieillit officiellement. Et ce vieillissement est bien plus marqué dans les zones rurales, où un tiers des habitants ont plus de 60 ans. Un vrai défi pour les municipalités, parfois un casse-tête même pour les maires qui seront élus ou réélus dans seulement 3 semaines. Prendre soin des plus vieux et attirer les plus jeunes, sous peine de voir mourir sa ville ou son village.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Pour le comprendre, c'est à Aurillac que nous allons, préfecture du Cantal. Aurillac se voit vieillir depuis les années 80. 26 000 habitants aujourd'hui, 30 000 alors. Les conséquences, elles sont multiples. Les écoles, les médecins, les entreprises, les services. Aurillac se bat de toutes ses forces. Ça paye, puisque la ville a gagné 700 habitants en 6 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est pas si mal. Elle le doit notamment à un développement économique dans un domaine très pointu, la microbiologie. On va vous raconter tout ça. Mais d'abord, faut y aller, à Aurillac. Et c'est bien là que commence le problème. La ville est totalement enclavée. D'habitude, quand on se déplace en France pour un reportage, évidemment, on prend le train. Aurillac, c'est entre 7 et 8 heures de trajet depuis Paris, pas mieux en voiture, la fameuse diagonale du vide. Mais il existe une liaison aérienne, quotidienne. Un avion à hélice d'une quarantaine de places, le seul moyen pour les gens de la ville d'aller à Paris pour le travail et revenir sans perdre 2 jours entiers.
Bonjour mesdames et messieurs, je suis Emilien, votre steward ce matin sur ce vol non-fumeur de Chalair Aviation à destination du Cantal. Notre commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à bord de cette ATR 42. Nous vous souhaitons un excellent vol.
1h20 plus tard, Cécile Bidot débarque à Aurillac. Premier arrêt, la maternité du centre hospitalier Henri Mondor. 2 fois moins de bébés en 40 ans sur l'ensemble de la ville. Mais un nouveau tout petit habitant est sur le point d'arriver.
On entend le cœur de votre bébé?
Oui.
Une star. Comment vous allez?
Ben là, c'est la fin. Ça fait 14 heures qu'on est au travail, là, mais dans 20 minutes, c'est bon. Vous arrivez au bon moment.
Ça va, vous avez pas mal?
Non.
Tout se passe bien? Vous sentez que votre bébé descend?
Oui, oui. Ça donne envie de pousser.
Ben voilà, on voilà. Y est.
On y est, donc.
Bon. C'est votre premier?
Oui. Cette frange.
Vous avez quel âge?
Je vais avoir 30 ans au mois de mars.
C'est émouvant d'entendre le cœur battre comme ça, de se dire qu'il sera bientôt là.
Oui, non, mais c'est sûr que ça fait très étrange. Je veux dire qu'on va repartir à 3, ça c'est particulier. Hein, c'est...
On sait si c'est un petit garçon ou une petite fille.
Un petit garçon.
Il a l'air énergique déjà.
Oui.
Vivre ce moment. Je vais juste avoir votre prénom.
Chloé.
Un immense merci. Mais à vous surtout. Merci. Donc la salle de naissance est au premier étage. On a la chance d'avoir une maternité qui est neuve. On a déménagé ici en 2022, donc avec de nouveaux locaux. Au niveau sécurité, il est essentiel qu'il y ait une proximité immédiate avec la salle de césarienne en cas d'urgence.
Christelle Bachelry-Renet, je suis sage-femme coordinatrice à la maternité d'Aurillac. Je travaille dans cette maternité depuis 2002. Je pense que c'est une maternité à taille humaine, moyenne, sachant qu'il y a 2 maternités dans le département du Cantal et que c'est la maternité où il y a le plus de naissances. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2025, nous avons réalisé 653 naissances. quand j'ai débuté, en 2003-2004, on a atteint au-delà de 1000 naissances, même jusqu'à 1100 naissances.
Donc si je calcule rapidement, ça fait 40% en moins en 25 ans, quoi.
Oui.
Vous qui côtoyez ces parents au quotidien, comment vous analysez cette baisse de la natalité, c'est-à-dire cette moindre envie de faire des enfants ou peut-être de les faire plus tard, d'en faire moins?
Je pense que les femmes, peut-être, ont envie de vivre autre chose. La maternité reste un engagement fort. Je pense qu'il y a eu quand même, au niveau social, au niveau sociologique, beaucoup de modifications dans le couple, dans l'envie de la parentalité. Mais c'est vrai que la majorité des patientes ont plus de 30 ans. On a les enfants plus tard, on a quand même des primipares qui sont jeunes.
Primipares, ça veut dire quand on accouche pour la première fois.
Oui. Des primipares qui sont jeunes, qui restent jeunes, même mineures, on en a quelques-unes. Il y a 2 ans, la primipare la plus jeune avait 16 ans et la plus âgée 52 ans.
Accouchement normal, épisio, accouchement normal, ventouse. Et ça, c'est des femmes qui ont perdu plus ou moins la poche des os, qui s'est rompue et qu'on surveille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 mamans.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 bébés, là, actuellement, dans la maternité d'Aurillac.
Christian Mazel, je suis gynécologue obstétricien depuis presque une quarantaine d'années maintenant. Et effectivement, on voit les chiffres qui baissent régulièrement au niveau des accouchements, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai connu des fois où toutes les salles d'accouchement étaient pleines, on a fait des accouchements dans les salles d'accueil, enfin, mais ça se faisait parce qu'il y avait assez de monde et puis... On a toujours su gérer sans problème, parce qu'on était formés autrement, on travaillait plus. Donc quand on travaille plus, on fait plus d'accouchements, donc on est plus entraînés.
Entre une époque où il n'y avait pas forcément de place en salle d'accouchement pour toutes les mamans et aujourd'hui, il y a une sacrée différence.
Ça, oui, mais après, maintenant, on a une prise en charge aussi qui est sûrement beaucoup plus attentionnée, peut-être. Donc ça, c'est quand même le but de ce métier, aussi bien pour les sages-femmes que pour nous, c'est d'être présents le plus possible.
Une maternité qui a de moins en moins de naissances, et ce mouvement, il continue. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter pour l'avenir de la maternité ?
Alors non, c'est pas la démographie des naissances qui m'inquiète, c'est plus la démographie médicale en fait. Ici dans la maternité, c'est surtout les équipes de médecins qui sont touchées par cette démographie qui diminue, avec peu d'effectifs pour assurer les gardes, les astreintes. Et ce sont des gens très engagés qui sont là pour maintenir ces unités. Les gens ne viennent pas par hasard et sont ici avec des valeurs profondes parce qu'ils aiment ce territoire et ils aiment la ruralité. Parce que c'est vrai qu'ici, on peut suivre les patientes quand même dans la globalité. On les connaît, donc ça a un côté quand même très positif pour les professionnels.
Fermeture des portes.
Étage 0. Ouverture des portes.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous faire les présentations?
Oui. Du coup, c'est Léonie.
Elle est née quand, Léonie?
Elle est née hier matin à 6h05.
Et là, elle est profondément endormie contre vous.
Depuis pas très longtemps, mais oui.
Et vous-même, vous vous appelez comment?
Léa.
Et vous avez quel âge?
J'ai 27 ans.
C'est votre premier bébé?
Oui.
Et vous êtes d'ici, du Cantal?
Oui.
Vous êtes née ici?
Oui, on est nés ici tous les deux. Et je suis née à la maternité d'Aurillac. C'est drôle, et ce qui est plus drôle, c'est que je me suis fait suivre par une sage-femme qui m'a fait naître.
Voilà. C'est incroyable. Donc il y a 27 ans, elle exerçait déjà?
Oui, elle a accouché ma maman, oui. On est ancré ici, hein. On bougera pas. On est attaché au clocher de notre église. On est tous les deux proches de nos familles. C'est beau d'avoir une famille, de créer sa famille.
Donc ça veut dire que vous n'aurez peut-être pas qu'un seul enfant, vous avez envie d'en avoir plusieurs ?
Là, tout de suite. Bon. Mais non, si, dans notre idéal, oui, on aura d'autres enfants, si c'est possible. Il faut penser à plus tard, s'ils font des études, s'ils doivent partir, il faut pouvoir suivre.
Ça, c'est une réflexion que vous avez eue avec
oui.
le papa ?
Ah oui. Oui, s'il y en avait un ou deux qui n'auraient pas travaillé, on ne se serait pas projeté là-dessus, c'est sûr.
Vous travaillez donc tous les deux, vous êtes salariés ?
Oui, moi je suis salariée et le papa il est agriculteur.
Et la question de la garde d'un bébé, c'est aussi une des raisons qu'il faut réfléchir.
Oui, la nounou, on l'a trouvée, j'étais enceinte de 3 mois. C'est la première chose à laquelle on a pensé, savoir si ça allait être possible de la faire garder, combien ça coûte. Au final, c'est toujours un peu le sujet économique qui revient quand même. Donc, fin avril, il va falloir que je la laisse chez la nounou et que je retourne travailler. On va reprendre une vie un peu plus tranquille après.
On se réveille un petit peu.
C'était tout à l'heure qui allait donner de la voix. Je crois qu'elle est partie. Sinon, il faut revenir la nuit.
Bon, on va laisser Léonie et sa maman se reposer un peu. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir, Léonie.
Bonne journée.
À vous aussi. Savoir comment vous appelez ?
Moi, c'est Lydie Vianne.
Vous avez quel âge ?
32 ans.
Vous êtes à la maternité depuis combien de temps, là ?
Ce matin. Du coup, j'ai passé le terme et donc... il veut pas venir, donc malheureusement, il faut le déclencher.
On sait comment il va s'appeler, petit ?
Oui, Enzo.
Il y a déjà le doudou sur le lit, je vois.
C'est ça. Oui, tout à fait.
Donc vous, monsieur, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 42 ans.
Je veux savoir comment vous appelez ?
Jonathan Berry. Enchanté. Moi, le projet d'avoir un enfant, ça a été assez compliqué pour moi, parce que j'ai jamais voulu en avoir. Et grâce à ma compagne d'aujourd'hui, elle a réussi à me faire ouvrir un peu les yeux et à me motiver à avoir un enfant.
Pourquoi vous n'en vouliez pas ?
Je voyais un peu la vie un peu trop chère, tout ce qui se passe actuellement un peu dans le monde, c'est un peu compliqué aussi. L'environnement, la sauvagerie qu'il y a dehors, maintenant ce qui se passe aux États-Unis, en France, partout dans le monde, quoi. Donc ça fait un peu peur, la guerre en Ukraine. On ne sait pas ce qu'ils vont vivre nos enfants dans pas longtemps, donc c'était mûre réflexion. Et puis heureusement, un jour elle m'a dit, voilà, je suis enceinte, et du coup on a réfléchi et on a décidé de le garder, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a fait basculer alors ?
Son amour, pas plus que ça.
Et pas moins.
C'est un pas qu'elle m'a fait passer avec tendresse et amour.
Et vous avez l'impression de participer au dynamisme là de RIAC en apportant un
exactement,
bébé dans la
c'est,
communauté.
C'est exactement ça, oui, bien sûr. Même par rapport à ici, après, je pense qu'on va acheter une petite maison dans pas longtemps. Voilà, on va investir un peu dans RIAC et profiter pleinement tous les trois, puis sa famille aussi, quoi.
Est-ce que vous travaillez ?
Oui, je suis soudeur.
Comment vous allez vous organiser ?
Pour le moment, je vais profiter de mon mois de congé paternité. Et puis après, je vais reprendre le travail tout doucement et... Donc maintenant, j'ai prévenu mon patron, je ferai plus d'heures que je faisais comme avant. Après, avoir mes week-ends et profiter pleinement de ma vie de famille.
Le congé paternité, c'est important pour vous qu'il existe. Oui. Et le congé de naissance, là, qui va être mis en place aussi.
Ça, si je pouvais prendre 2 mois, j'aurais pris 2 mois. Là, j'ai 28 jours, donc je vais en profiter pleinement. Et même j'aurais eu 6 mois, je les aurais pris, honnêtement.
À l'autre extrémité de la pyramide des âges, direction l'EHPAD maintenant, un des deux établissements publics de la ville. Il compte une soixantaine de résidents et affiche complet en permanence. Aujourd'hui, les personnes âgées reçoivent la visite d'adolescents pour une petite animation intergénérationnelle.
Il y a plein de jeunes.
Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu ?
C'est la tour de Pise.
Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?
On fait une tour qui ne doit pas tomber.
Donc vous empilez des morceaux de bois, il ne faut pas que ça tombe.
On a le... Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ?
C'est un micro.
C'est un micro poilu.
Ah bon ?
Là, c'est à vous, madame.
À vous. Elle retient sa respiration. Bravo ! Je suis sauvé !
C'est le jeune homme qui a tout fait tomber, là ?
Oui.
C'est vous qui avez cassé la tour.
C'est lui qui l'a cassé.
Oh là là.
Vous avez quel âge, madame ?
Je ne sais même plus, je suis née en 29.
96. Moi, 91.
C'est quoi votre nom ?
Moynac, M-O-Y-N-A-C.
Monsieur Moynac.
Oui.
Et votre prénom ?
Pierre-Marius-Joseph.
Oh là là.
Et vous, madame ?
Madame Boudineau, B-O-U-D-I-N-A-U-D, Monique.
Qu'est-ce que ça vous fait de passer un petit peu de temps avec des jeunes ? Là, ce sont des adolescents qui sont venus jouer avec vous à l'EHPAD.
C'est très agréable et puis ils sont très sympathiques. C'est...
Ça nous change parce qu'on est une congrégation de tocards ici. C'est
mais
tout.
C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est bête.
Mais non, mais des vieux qui sont tous rognons, qui sont tous malades, qui sont tous grincheux. Il y a des boiteux, il y a des sourds, il y a des muets, il y a des... Et on est rassemblés là, alors qu'est-ce que vous voulez que ça donne ?
Et alors, vous êtes d'Aurillac ?
Oui, enfin moi.
Moi, je suis très attachée à la commune. Mon fils était médecin à l'hôpital et je me suis rapprochée de lui pour la fin de ma fin de vie.
Madame est une Parisienne, vous comprenez ?
On dit souvent que Aurillac, c'est une ville de vieux.
Oui.
De vieux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben ça, je ne sais pas, je ne suis pas démographe. Hein.
Il y a plus de 30% de plus de 60 ans, alors qu'il y a 10-15% de moins de 14 ans.
Ah bon ? Oui, mais peut-être que les jeunes partent faire leurs études ailleurs, dans les facs, etc.
C'est une catastrophe, ça. Moi, j'ai eu deux fils. Il y en a un qui a développé sa carrière, vous savez où ? À Lille. Il peut pas être plus loin. Et l'autre à la frontière suisse. Ils sont partis pour faire leurs études et se sont installés aux frontières. Ils ont deux fils chacun. Je ne les vois jamais. Alors que l'un de mes fils a fait faire l'arbre généalogique de la famille. Et bien, ma famille est restée aux environs d'Aurillac, dans un rayon de 30 km, depuis 14 générations. 14 oh là là. Générations.
Alors c'est les premiers qui sont...
Les premiers qui sont partis.
Donc c'est une histoire qui se termine avec vos fils qui sont partis.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Ça me désespère, parce que ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de travail pour la jeunesse. Et c'est dommage parce qu'évidemment, c'était une région rurale, il y avait beaucoup de fermes, mais il n'y a pas beaucoup de travail dans les bureaux, ça c'est sûr. La jeunesse émigre vraiment.
Ça veut dire que c'est une ville qui...
Qui meurt.
Qui se meurt.
Anne Vermeil, je suis directrice du CCAS, qui est en charge de gérer des services à vocation sociale et des établissements médico-sociaux, tels que les EHPAD, par exemple. Si on s'attache aux études et aux statistiques et aux projections démographiques, les personnes en situation de dépendance telles qu'elles auront besoin d'être accompagnées et prises en charge dans un EHPAD vont être plus nombreuses à l'avenir. On a une projection sur le département à échéance de 5 ans qui est de l'ordre de 300 personnes qui auront des besoins plus nombreuses qu'aujourd'hui. Donc une partie de ce besoin pourra peut-être être couvert par les places qui aujourd'hui ne sont pas occupées et qui le seraient demain, mais peut-être qu'il va falloir envisager en effet de créer des places supplémentaires Et donc, c'est effectivement des projections, une programmation, une planification qui va devoir s'opérer là dans les mois qui viennent, de façon à ce qu'on soit prêt le moment venu. Parce que construire un EHPAD, ça prend du temps. Et donc, pour être prêt le moment venu, quand les personnes auront les besoins, il faut vraiment qu'on commence à planifier ça dès maintenant.
Parce que très concrètement, est-ce qu'il y a assez de bras pour prendre en charge toutes ces personnes âgées aujourd'hui et a fortiori demain ou après-demain ?
Alors aujourd'hui, c'est tendu et il y a une très forte concurrence entre employeurs, mais on arrive à faire face quand même, c'est-à-dire à assurer un taux d'encadrement des bénéficiaires qui est correct, moyennant beaucoup d'énergie pour assurer la continuité du service quand même, parce qu'il y a beaucoup d'aléas et beaucoup d'imprévus dans la présence des personnels. Par contre, les projections sont, quant à elles, plutôt inquiétantes quand même, parce que on sait que les besoins vont s'accroître, sans pour autant que les moyens humains en face s'accroissent au même rythme. Donc, en effet, les années à venir inquiètent tous les professionnels du secteur.
Donc là, on se trouve dans la vieille ville d'Aurillac. Ce sont des rues piétonnes avec pas mal de commerces. Boulangerie, boucherie, traiteur, brasserie, horlogerie, fleuriste, magasin de vêtements. Et alors, juste devant nous, il y a une pharmacie du Gravier. On va rentrer pour voir quel type de client elle accueille.
On y va, alors, oui, allez. Vous voulez que je vous montre ce qu'on fait en haut pour les maisons de retraite, parce que bon, c'est sur la. Je vous en prie, allez-y.
Ah, il y a un ascenseur.
Ah oui, il y a un petit ascenseur. Bon, normalement, au départ, c'était un monte charge, mais c'est vrai que c'est quand même pratique, même pour nous. On tient des charges un peu.
Je suis Elisabeth Foléas, docteur en pharmacie à Aurillac, à la pharmacie du Gravier.
Là, je voulais vous montrer, moi, c'est au milieu des poubelles.
Donc là, c'est les stocks.
Je vais vous montrer, voilà, par exemple, je ne sais pas dans quel EHPAD vous êtes allé. Ça, c'est l'EHPAD Saint-Joseph, donc c'est un EHPAD d'Aurillac. Nous, on leur prépare de la PDA, donc c'est de la préparation des doses à administrer. Donc c'est-à-dire, en fait, là, c'est pour madame untel, tel jour, donc on prépare du mardi au lundi. C'est pour la semaine, c'est une plaque pour la semaine.
Tous les médicaments que cette personne doit prendre,
exactement.
C'est ça, jour par jour.
Exactement. Donc nous, on retranscrit l'ordonnance comme ça dans un logiciel et ça nous sort une étiquette qu'on colle sur le pilulier.
Donc là, il y a toute une pile de piluliers, c'est impressionnant.
C'est un pilulier par semaine et par résident de l'EHPAD, en fait. Donc et c'est vrai que la pharmacie s'est adaptée aux demandes des EHPAD, en fait. On vend de plus en plus de matériel comme ça, de fauteuils roulants, de déambulateurs. Ça, je pense que c'est vraiment national, c'est un constat.
Ça vous amène à modifier vos offres, en fait.
Exactement. On a très peu de lait, très peu de couches pour bébé, on en a très très peu. On délivre beaucoup de compléments nutritionnels oraux pour les personnes âgées, voilà. Et ça, c'est une espèce d'adaptation, on ne vendait pas tout ça avant. D'ailleurs, on n'avait quasiment pas de stock à une époque, et maintenant, on a un stock de dingue. Moi, j'ai plus de ça que de lait pour bébé, ça, c'est indéniable.
Merci, au revoir.
Merci,
au revoir, madame.
Bonne journée. Merci.
Allez, Nolan, go, 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 monseigneur. Je vais t'entendre aussi, sinon.
Plus de vieux, moins de jeunes, ces mathématiques des classes disparaissent, et avec elles parfois des établissements tout entiers. L'un des quatre collèges publics d'Aurillac s'appelle le collège de la Jordane. Il doit fermer en 2029, moins d'élèves. Et aussi, dit le conseil départemental, l'état du bâtiment, c'est un collège Payron des années 60. Cette fermeture annoncée, les parents comme les enseignants s'y opposent. Rendez-vous avec le collectif devant l'entrée.
Interception sur France Inter.
Bonjour. Est-ce que vous seriez le collectif des amis de la
Exactement,
Jordane?
Exactement, oui, mais quelle ponctualité.
Vous êtes beaucoup plus nombreux que moi. Donc le collège de la Jordane, c'est ici, juste devant nous.
Voilà, tout à fait.
Et on voit votre banderole qui est sur
toujours,
les grilles.
Voilà,
qu'est-ce qu'il y a écrit dessus?
Donc collège la Jordane, toujours en lutte.
Ça fait combien de temps qu'elle est là, cette banderole?
3 ans.
Donc ça fait 3 ans qu'on vous a annoncé cette fermeture programmée.
Ouais, décembre 23.
Et vous ne vous résignez pas?
Eh ben non, et non, et encore, et ça continue.
Alors je crois que vous aviez prévu qu'on continue la discussion dans un lieu...
Un endroit un peu plus chaud, hein, voilà. Donc je vous suggère qu'on y aille.
Ça Merci. Fait partie aussi de la réputation du Cantal.
Qu'il ne fait pas très chaud, mais le cœur est chaud par contre, on sait accueillir.
On est dans une ville ensoleillée, oui. On a autant de soleil qu'à Toulouse, madame.
Donc je vous suis. Alors,
comme ça, on va fermer la porte. Après, Josiane, venez bas. Venez vous installer. Venez, venez, oui, oui.
Je m'appelle Aline Rabérin, je suis professeure de français au Collège de la Jordanne depuis 27 ans peut-être.
Et vous avez rejoint ce collectif de parents, d'enseignants, c'est un peu un mouvement général là, qui se mobilise contre la fermeture.
Ah oui, tout à fait, on a tous été atterrés des manières de faire du conseil départemental. Et pour repartir du tout début, on a appris la fermeture, le projet de fermeture de ce collège par la presse.
C'est-à-dire que vous, enseignante dans ce collège, vous l'avez appris en lisant le journal.
Exactement. Comme les parents, comme tous ceux qui sont concernés d'ailleurs. Donc ça, c'était janvier 23. À l'époque, on avait environ 500 élèves, 70 personnels. Et donc, on a appris quasiment du jour au lendemain que tous ces gens-là seraient passés dehors et se retrouveraient sur le trottoir, hors de leur établissement.
Ça veut dire aller dans les autres collèges. Il y a trois autres collèges publics, c'est ça?
Voilà, il y a trois autres collèges publics, un collège privé. Et c'est parce qu'on a insisté auprès du conseil départemental, qu'on a demandé, mais comment voyez-vous les choses? Où vont aller nos élèves? Que petit à petit, le conseil départemental a commencé à réfléchir à, en effet, où est-ce qu'on va mettre tous ces élèves? Donc on a eu des solutions assez farfelues, qui relevaient de, non pas d'études et de réflexions encore une fois, mais d'avis. Sûrement que dans tel établissement, ça passera, que dans tel autre, il y a des places. Sans vérifier les capacités d'accueil de ces établissements, les capacités d'accueil des salles, tout simplement. Combien d'élèves rentrent dans ces salles-là?
Et alors, selon vous, ça passe ou pas?
Moi, je suis affolée par les conditions dans lesquelles les élèves vont travailler dorénavant. Extrêmement déçue et même blessée, vraiment, de voir comment sont traités nos enfants, enfin nos élèves, vous voyez, je dis nos enfants. C'est de l'humain, hein, ce ne sont pas des boîtes de conserve.
Le conseil départemental donne des chiffres. 300 élèves en moins sur l'ensemble du Cantal, sur cette génération-là, en 6 ans. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que ce sont des chiffres que vous contestez?
Alors, on sait bien que la démographie baisse sur le département. Ce serait idiot de le nier. En revanche, ça dépend où dans le département. Dans toute la zone qui nous intéresse, Aurillac et les alentours, il n'y a pas de baisse démographique. En revanche, c'est vrai que dans le nord du département, l'est, là, il y a une forte chute. Le conseil départemental a mis en place un plan d'attractivité qui porte ses fruits.
Pour attirer de jeunes personnes dans le Cantal.
Ouais. Attirer la population dans le Cantal et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est complètement incohérent d'avoir un plan d'attractivité et parallèlement à cela de fermer un collège, un gros collège de 500 places.
Le Cantal donc ne vit pas replié sur lui-même. Ses habitants ont compris que leur seule richesse, en dehors de l'agriculture, ce sont leurs montagnes, leurs vallées verdoyantes, l'air pur qu'on y respire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le pays vert. Aux citadins surmenés vivant toujours sous pression, il offre un cadre idéal pour la détente et la pratique de ces distractions simples que sont la pêche, la randonnée pédestre, le canotage, et aussi pour les amoureux du passé, la découverte des villes et des châteaux.
La nuit est tombée sur Aurillac, on est sur la place du Square. Il y a deux bars là qui sont côte à côte et sur la terrasse, il y a deux jeunes filles qui sont attablées. Vous êtes toutes seules. Oui. Je peux m'asseoir, ça vous dérange pas? Est-ce que je peux savoir comment vous vous appelez, quel âge vous avez?
Moi, je m'appelle Célia Land et j'ai 15 ans.
Et moi, je m'appelle Gwenaëlle Scrimine et j'ai eu tout juste 18 ans.
Qu'est-ce que ça signifie d'être jeune à Aurillac?
Pas avoir de choix. Surtout, par exemple, nous, en apprentissage, on n'a pas beaucoup d'entreprises ou vers qui se tourner, déjà, et pas beaucoup de lieux qu'on pourrait s'intéresser. Par exemple, là, on est au bar parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas beaucoup d'événements aussi à Aurillac.
À Aurillac, il n'y a rien.
Ouais, littéralement.
C'est vrai, en plus, à Aurillac, il n'y a rien du tout.
Surtout quand, nous, comme nous, on finit la journée de travail, déjà, il n'y a aucun jeune. Il y a plus d'animation.
Et vous pouvez le voir,
il y a plus de lumière. Là.
Ouais, là c'est vrai qu'il est pas tard pourtant, il est quoi, 19h30 à peine ?
Oui, 19h23.
Par exemple, la plupart des personnes qui étaient de mon âge après le lycée, ils sont tous partis en dehors d'Aurec, Clermont, Rodez, etc., etc. Donc moi, oui, je compte partir. Et toi, tu comptes partir après ?
Moi, non. Non.
Comment t'as
ça ? Non, je sais pas en vrai.
Après, la ville est jolie. Hein. On a des endroits, on a des... Comme nous, on appelle ça les jeunes, des spots où on se met, on peut voir le coucher du soleil, bon, en été, bien évidemment.
Mais en fait, vous l'aimez, votre ville ?
Ah, moi, je l'adore, parce que moi, j'ai grandi ici, je suis née ici, je vis ici, mais en fait, j'ai tellement vu ici, j'ai jamais rien vu d'autre, que en fait, ça me donne vraiment envie de partir, et quand on voit les personnes moroses,
Allez, on trinque quand même à la santé d'Aurillac.
Le petit pain.
Bah oui, on trinque quand même, parce qu'à Aurillac, pour la première fois depuis 40 ans, le dernier recensement dit qu'on gagne des habitants. Pour les garder, il faut les loger, construire, rénover. Nous allons entrer dans l'autre Aurillac, un peu excentré, avec le maire socialiste Pierre Matonnier. Après deux mandats, il passe la main, mais va rester sur la liste menée par son adjointe, et c'est lui qui guide Cécile Bidot dans le quartier Baradelle.
Donc là, on rentre dans l'Aurillac moderne. Et là, vous êtes sur le quartier de Baradelle.
Ça y est, on est arrivé là.
On est arrivé. Vous pouvez admirer le paysage parce que Aurillac est entouré d'un écrin de verdure, d'un milieu naturel préservé qui met le bijou en évidence de la ville médiévale, de la ville historique et de la ville moderne. Et c'est significatif d'une qualité de vie qui fait une force supplémentaire d'attractivité de notre commune.
Alors, on se trouve là devant un chantier de construction de nouveaux logements,
oui,
à Aurillac. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire dans un contexte de déclin démographique ?
Ce déclin, qui depuis les années 90 était une réalité, s'est inversé. À partir de 2020, nous avons gagné de la population et tous les ans, nous en gagnons. Ça veut dire que la courbe s'est inversée. Depuis 2020-2026, Aurillac a gagné 700 habitants, donc 2% de sa population. C'est vraiment une inversion structurelle et Aurillac agglomération a gagné 1300 habitants. La strate qui est le plus impactée dans l'évolution, c'est les 18-30 ans. Alors les 18-30 ans, c'est plutôt des actifs, voire des étudiants. C'est bien pour ça que cette inversion de la courbe, pour moi, est un grand événement, parce que c'est un phénomène qu'on subissait, ce déclin démographique, et depuis 6 ans, on gagne des habitants.
En termes de démographie, il y a quelque chose qui ne changera pas, a priori, les courbes le montrent, c'est plus de décès que de naissances. Aujourd'hui, ça n'est pas propre à Aurillac, oui, c'est quelque chose qui va concerner toute la France. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, vous, d'être en avance, quelque part, peut-être que d'autres communes vont vivre ce que vous avez déjà vécu ?
Nous, le déclin démographique naturel, on le connaît depuis plus de 50 ans. Et donc la volonté politique qu'on a eue, eh bien, c'est une démarche d'attractivité de notre territoire pour répondre aujourd'hui aux frémissements économiques qu'on connaît avec la microbiologie. C'est une opportunité de développement économique réel. La microbiologie qui était historiquement à Aurillac, hein, dès les années 1900, les ferments lactiques pour fabriquer le fromage étaient faits à Aurillac. Il y avait une connaissance, une culture du ferment lactique, donc de la microbiologie. Et puis ça a été déclinant, comme beaucoup d'industries. Et puis là, avec le Covid, les microbiotiques, la réflexion sur la microbiologie par le microbiote a donné un deuxième souffle. Ce qui fait que les entreprises qui étaient déjà dans ce secteur-là ont bénéficié de cette dynamique avec une croissance à deux chiffres du nombre de salariés.
Donc, il y a combien d'entreprises dans ce domaine ?
6 à 8 entreprises qui constituent le pôle d'excellence. Donc la volonté, c'est de développer ce dispositif pour attirer aussi des compétences et des entreprises qui pourraient devenir des start-up dans un écosystème par une mise à disposition de terrain, d'équipements et surtout un fort dynamisme autour de la formation universitaire. Donc il y a une culture qui essaie de naître sur la microbiologie qui dépasse simplement 2-3 entreprises mais qui va être un mouvement beaucoup plus fort si ce secteur continue à se développer.
Alors, je crois que pour rentrer, il faut s'inscrire sur cette petite borne informatique. Un petit badge qui s'imprime.
Voilà, nous sommes maintenant chez l'un des acteurs de ce secteur de la microbiologie, Biose Industries, leader mondial des solutions pharmaceutiques à base de souches de bactéries, installé à Aurillac depuis les années 1950. On va aller visiter les labos avec le patron, Adrien Nivoliez.
La porte est ouverte.
Bonjour.
Bonjour. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Bienvenue chez nous. Bienvenue au Biose. Alors, c'est là où il va falloir attaquer à changer. Donc, on commence par une Charlotte.
La blouse.
Il va même lui falloir des lunettes. Alors, le challenge maintenant, c'est de laver les mains.
Ok.
Du coup, nous, notre spécialité, c'est de travailler sur les bactéries. Et vous êtes colonisé entièrement par bactéries. Vous avez 10 fois plus de bactéries que cellules humaines dans votre corps. Donc vous êtes une grande source de contamination pour tout ce qu'on va faire de l'autre côté. D'où le besoin de bien se laver les mains avant de rentrer dans la zone et de faire attention à rien toucher.
D'accord.
Allez.
Je continue ?
Ouais. On va aller sur la pièce. Donc nous, on est une entreprise pharmaceutique. Et notre cœur de métier, c'est la bactérie. On va développer, c'est-à-dire développer, ça veut dire stabiliser des bactéries pour pouvoir les utiliser en tant que médicaments, compléments alimentaires, dispositifs médicaux dans le monde entier pour prévenir ou traiter des pathologies. Les gens connaissent historiquement ce qu'on appelle les probiotiques, c'est-à-dire toutes les bactéries qui viennent aider au confort digestif, prévenir les effets secondaires des antibiotiques. Ensuite, il y a toute une gamme qui s'est développée sur la prévention des infections vaginales. Et aujourd'hui, nous, on accompagne des sociétés qui développent des projets cliniques pour l'oncologie, les maladies immunitaires, l'arthrose. Et vous allez voir, dans les 5-10 prochaines années, il va y avoir de plus en plus de produits qui vont arriver, qui sont pas en opposition avec la chimie, mais qui sont des produits biologiques et qui viennent plutôt travailler à un équilibre du corps pour accompagner un état de bonne santé. Alors vous n'avez pas le son, c'est dommage, mais par contre vous avez l'odeur. Parce qu'en fait on va faire pousser des bactéries qui sont des bactéries intestinales. Donc là vous avez la preuve en direct que c'est vos bactéries qui sont responsables de tout ça.
Donc, c'est vrai que ça sent pas très bon.
Quand on fait certaines productions, on est très 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 content de commencer à sentir que ça sent mauvais. Parce que quand ça sent mauvais, ça veut dire que l'expérience sent bon. Adrien Nivoliez, président de la société Biose Industries. Alors pour tout vous dire, je suis rentré comme stagiaire dans la société. Alors moi, je dirige la société depuis 2017 et la société elle est passée d'une 50aine de personnes à 300 personnes aujourd'hui. On a investi 50 millions d'euros sur le site au cours des 5 dernières années. On a créé une plateforme à Boston parce que le marché américain est un marché qui est important pour nous en termes de développement. On fait aujourd'hui 10 millions de produits finis par an qui sont vendus sur les 5 continents. Et donc, c'est un flux très, 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 très dynamique. On travaille avec plein de jeunes, du coup, on a une moyenne d'âge qui est autour de 35 ans dans la société. C'est un flux de 50 à 60 personnes par an qui nous rejoignent chaque année dans la société. Pour faire simple, on estime qu'on a 50% à peu près dans les analyses qu'on fait qui viennent d'un périmètre assez local, 50 km autour de l'usine, et on a 50% qui viennent totalement d'ailleurs. Et donc on a recréé un dynamisme naturel. Mais en plus de ça, en fait, on a aussi recréé une école de formation de la microbiologie qui a commencé d'agent de laboratoire qui maintenant s'étend jusqu'au doctorat. On a un master qui s'est installé maintenant à Aurillac. Donc en fait, on a recréé toute une filière entière de microbiologie, agent de laboratoire, technicien de laboratoire. On a la grande volonté de réussir à lancer une licence à la rentrée professionnelle qui fera la continuité avec un BTS qui a été créé l'année dernière à Aurillac. Et en fait, on a mis tout le monde autour de la table mairie, département, région, CCI, université. Et là, on a créé en fait un pôle commun dans lequel on a mutualisé les ressources et les capacités pour créer ces formations-là. Et donc, il y a un véritable alignement, une véritable volonté locale à réussir à mettre en place des choses qui vont alimenter et faciliter du coup l'aide aux entreprises pour pouvoir se développer et la formation de nos jeunes pour les faire directement sur place et pouvoir les intégrer après. Donc voilà, nous, on fait plusieurs choses dans ce sens-là pour faire que quand on arrive chez BIOS, on est accompagné, donc accompagné par son package de rémunération, par différents facteurs, jusqu'au logement, s'il y avait besoin, à certains salariés pour leur donner les bons contacts et pouvoir s'assurer que l'intégration se faisait bien. Et en fait, la microbiologie devient un vrai cœur du territoire et je trouve que c'est un beau geste par rapport à l'histoire, parce que le lycée ici s'appelle Émile Duclos, et Émile Duclos, c'était le numéro 2 de Pasteur, qui avait cette culture de la microbio, et certainement, il serait très heureux de voir que la microbiologie continue à se développer à Aurillac.
Là, je suis juste en train de nettoyer un fermenteur de lait. Et la production s'est terminée hier. Il faut que ça soit tout propre, il faut tout laver pour attendre une autre production.
Je m'appelle Gemgay Ngarbaramren, je suis d'origine tchadienne, j'ai 27 ans.
Donc, vous avez fait votre formation à l'université d'Aurillac, c'est ça?
Mais j'ai commencé en master 1 à l'université de Clermont-Ferrand. Et après ma formation, il y a un nouveau parcours qui venait d'ouvrir et c'était en alternance. Et c'était ici à Aurillac.
Et vous êtes en CDI aujourd'hui?
Oui, maintenant je suis en CDI. Je suis engagée en tant que technicienne biologiste en R&D Process, recherche et développement du coup. Et c'est en lien complètement avec ma formation.
Est-ce que vous pensiez un jour travailler à Aurillac et vivre à Aurillac?
On va dire que je me suis toujours dit, après les études, peut-être aller dans une ville plus grande, pourquoi pas Lyon, Bordeaux et autres, mais à Aurillac, je n'ai jamais imaginé que j'allais venir ici et rester. Tout comme fait, au début, c'était dur. Quand j'étais en stage, j'étais arrivée ici, je connaissais personne, j'étais seule tout le temps à la maison. Mais après, je suis restée, je me suis fait des amis, ça se passe très bien. Et là, je reste et j'oublie et je me plais bien ici. Et rester ici encore un peu plus, pas pour toute la vie, mais quand même un peu plus. Et après, on verra où le vent nous amène.
On va retourner dans les bureaux de BIOS pour aller rencontrer les salariés récemment embauchés. On a la machine à café qui est en route. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous?
Bien sûr, allez-y. Je m'appelle Louvran Jean-Macan. Je suis chargée de projet analytique ici à BIOS Industries depuis novembre 2025. Toute nouvelle prise de poste.
Et vous avez quel âge?
29 ans.
Alors qu'est-ce qui vous a amené à Aurillac?
Le travail, on ne va pas se mentir. Et puis de toute façon, je cherchais une zone un peu centrale entre Lyon et Toulouse pour des raisons personnelles et parce que je cherchais aussi la campagne et une petite ville.
Et donc, vous êtes installée à Aurillac?
Oui, depuis peu, dans un petit village aux alentours. Dans une grande maison, et la plus grande difficulté est de trouver un logement dans le coin. On dirait pas, mais c'est un peu comme Paris.
Ah oui, à ce point-là?
Exactement, je me retrouvais à 2 semaines de la prise de poste sans logement, malgré l'ouverture des critères de plus en plus larges.
Il n'y a pas assez d'offres, en fait?
Exactement, c'est soit des petits appartes mal isolés en plein centre, soit des grands manoirs.
Est-ce que c'est cher de vivre ici, dans le coin?
Non, j'ai le même loyer que quand je vivais à Lyon, mais pour 3 fois la surface. 650 euros pour 110 mètres carrés. Je suis pas mal.
Aurillac vieillit. Vous qui êtes jeune, ça ne vous effraie pas de vivre ici?
Non, du tout. Le but, c'est de renouveler, justement. Et quand on travaille dans ce genre d'entreprise, on n'est entouré que de jeunes qui ont la motivation aussi de faire venir d'autres personnes et de dynamiser le territoire.
Vous allez peut-être fonder une famille ici.
On verra, l'avenir nous le dira.
Aurillac, miroir d'une France qui vieillit. Un reportage de Cécile Bidot pour Interception. À la production, Hélène Chevalier. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Maria Pasquet. Martine Messonnier est chargée de programme. Merci à Romain Couturier pour la documentation musicale et à Corentin Rouchy pour le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro au bout du monde et au coin de la rue.